L'Observatoire de l'espace vous accueille dans son studio cosmique, un espace de discussion dédié à préciser comment déployer l'hypothèse d'un centre d'art contemporain en orbite terrestre. Au moment d'imaginer exposer l'art dans l'espace, des questions concrètes se posent d'office avec toutes les implications esthétiques qu'elles promettent. Comment concevoir une scénographie sans haut ni bas? L'impesanteur pourrait-elle donner une signification particulière aux œuvres? Est-ce que faire de l'art dans l'espace nous oblige à faire de l'art qui évoque l'espace? Au fil des entretiens, nous questionnons différents artistes qui travaillent avec l'espace pour définir avec eux la stratégie curatoriale d'un centre d'art contemporain arrimable à la Station Spatiale Internationale. Bonjour Erwan Venn.
Bonjour.
Est-ce que vous aimez regarder le ciel?
Oui, beaucoup. Le matin, le soir.
C'est-à-dire que vous consacrez de longues plages dans la journée?
Il faut que je voie le ciel tous les jours.
Vous vous mettez dans une position particulière pour le regarder?
Non, je marche.
C'est dangereux.
Non, j'aime bien regarder la lumière, en fait. J'aime bien, c'est important, la lumière du matin. Parce que la lumière du soir, elle est plus facile. On connaît, c'est orange, tout ça.
Donc ça veut dire qu'il peut vous arriver de choisir votre heure de réveil en fonction?
Ouais.
Vraiment?
Oui, pour voir la lumière, ouais. Ouais, c'est hyper important.
Alors, pour faire plus ample connaissance, nous allons commencer par sonder vos préférences. Parmi tous les objets qui sont déjà dans l'ISS, auxquels préférerez-vous vous identifier?
Les objets dans la station.
Ouais.
Mais quels objets?
Imaginons, enfin, les objets qui s'y trouvent, lesquels pourraient être un support d'identification, voire totémique pour vous?
Les combinaisons. Les casques, les gants.
Ah, tout ce qui recouvre.
Ouais.
Parce que vous recouvrez?
Non, je sais pas. Je voulais être cosmonaute quand j'étais enfant, donc je pense que
Donc tout ce qui pourrait vous permettre de vous rallier...
Ouais, une identification, oui, c'est la combinaison.
Vous préférez les forces centrifuges ou les forces centripètes?
Je sais pas. Déjà, dans centripète, c'est un mot qui fait rigoler, donc j'aime bien.
Oui. Ah oui.
Mais je sais pas. Non, ça me fait penser à des vortex. Je pense que je serais un très mauvais cosmonaute. Je serais très très mal à l'aise.
À cause de laquelle des forces alors?
Les deux.
Ah, de la
combinaison. D'avoir, je sais plus, peser deux fois son poids ou trois fois son poids et avoir le visage déformé.
Et alors, pour le titre d'une expo dans l'espace, vous préférez force contraire ou à la conquête de l'être?
À la conquête de l'être, oui.
Ah, pourquoi?
Je pense qu'il y a un truc de... On va essayer de se comprendre soi. Enfin, le voyage, je pense au premier navigateur, quoi. C'est essayer de voir où on est, quoi, les humains.
Donc c'est une question de repositionnement que pose l'espace?
Oui. Parce que c'est un environnement hostile. Donc comment est-ce qu'on est là-dedans, dans cet environnement hostile? Enfin, je pense que ça nous redéfinit.
Et pour le sous-titre de l'expo, vous préférez « Ici ailleurs » ou « Tel est pris qui croyait se mouvoir
» Ici ailleurs, oui.
Et j'avais pas mis de « et », vous avez rajouté un « et » entre « ici » et « ailleurs ».
Ah oui, ouais. Ici et ailleurs, oui. Ici et... Enfin, je sais pas.
Et ça vous évoque quoi? Ça vous fait déjà penser à ce que vous pourriez exposer?
Sortir de soi. Être autre chose que dans notre corps d'humain, là, avec des bactéries dans le corps.
Ah oui. D'où la combinaison pour en rajouter.
Ouais.
Et alors, dans le mot « astromobile », qu'est-ce que vous préférez?
Astromobile. Mobile?
Plutôt mobile.
J'ai beaucoup joué au Playmobil. Donc,
d'accord.
Ça me renvoie plutôt au Playmobil.
Et alors, le 12 avril est le jour de la Journée internationale du vol spatial habité. On peut aussi dire que c'est le Yuri Day.
Ouais.
Est-ce que vous préférez, pour l'occasion, vous faire une relecture de l'intégrale de Tolstoï ou une réécoute de l'intégrale des disques de propagande soviétique?
La réécoute des propagandes soviétiques.
Vous pourriez y passer des heures?
Ah oui, vraiment.
Vraiment?
Oui, j'ai même un 45 tours
Vous êtes entraîné?
Du parti communiste sur le vol de Yuri Gagarin.
Ah, justement?
Oui.
Et vous l'avez écouté combien de fois, à peu près?
Pas mal de fois.
C'est-à-dire
Tous
les jours, pendant
plusieurs
années?
Non, je fais le DJ pour rigoler. Et
DJ en... de 47 tours de propagande.
Non, oui, j'en ai quelques-uns. J'ai des vinyles des discours de Valéry Giscard d'Estaing, de Mitterrand. C'est des trucs que j'ai trouvés à Emmaüs.
D'accord.
Et donc, très friand des archives sonores politique. Un peu improbables, ouais. Ouais.
Est-ce que vous vous sentez DJ jusque dans votre travail ?
Oui.
C'est-à-dire, vous aimez... Bah,
mélanger des sources, ouais. Ouais, voilà, mélanger des sources.
Ça suppose d'aller chercher des sources très variées entre elles ?
Oui. Ouais, ouais. C'est pour ça que je suis plasticien. Enfin, c'est-à-dire que tu peux à la fois faire un dessin ou reprendre une image et la détourner. Il y a une richesse à mélanger les choses. Il me semble que c'est le propre de l'imagination, de recombiner les choses. Enfin, c'est ce qu'on fait.
Vous avez fait une installation vidéo dans vos différents travaux avec l'Observatoire de l'Espace. Une de ces installations donc, s'appelle « À la conquête de l'espace ». Voici un extrait de la bande-son. De quoi s'agit-il ?
Le satellite A1, dit Astérix.
lancé par la fusée Diamant.
Oui.
Et alors ?
Le son est un peu faible. J'étais un peu déçu la première fois que j'ai entendu. J'étais,
ah oui,
c'est tout. Je pensais à un bip bip sympa. Et là, c'est juste un sifflement. C'était un peu décevant.
Et pourquoi ? À quoi vous attribuez cette déception ? Parce que ça veut dire qu'il était trop...
Ouais, monocorde, enfin ouais. Un peu littéral, quoi. Moi, j'attendais un bip bip vachement sympa.
Ah, c'est-à-dire un design sonore.
Ouais, un design sonore bien bossé et tout.
Hyper alors, recherché.
Là, tu sens qu'ils ont, bon, ils ont pris ce qu'ils avaient sous la main.
Ouais. Vous dites dans un entretien avec Floriane Germain que l'art peut apporter des nuances, faire entendre des discours un peu à côté, parler de la complexité et apporter des réponses différentes. Justement parce que l'art fabrique cette complexité.
Pas forcément. Enfin, on peut fabriquer de la complexité, mais ça permet d'éclairer les choses. Mais on peut aussi l'assombrir. La complexité.
Donc il y a un danger.
Pardon ?
Il y a un danger à complexifier ou ?
Non, pas en art. L'art ne sert à rien. Donc.
Mais alors donc ça veut dire qu'on parle d'une complexité particulière ?
Bah d'intellectuel en fait, mais pas de, c'est pas la complexité du programme nucléaire français par exemple.
Oui, mais alors est-ce qu'un centre d'art spatial est l'occasion de changer de regard sur la complexité dont parlent les artistes ?
Je sais pas, de toute façon ce sera assez compliqué de faire un centre d'art dans l'espace, ne serait-ce que pour trouver le financement. Donc déjà, mais oui, mais la complexité c'est juste une donnée. Enfin, c'est pas,
c'est comme. Ah oui, c'est quelque chose qui doit se dépasser.
Ouais. C'est pas.
Et vous vous sentez utile pour ce dépassement ?
Je sais pas. J'ai l'impression d'être un petit cosmonaute quoi, avec les autres petits cosmonautes.
Mais qui déplacent quand même.
Qui vont dans l'espace. Bah oui, qui essayent de pousser un peu plus loin l'imagination.
Voici une hypothèse sonore. Est-ce que vous entendez plutôt un kit de voyage en cours d'hallucination ou les ciseaux d'un coiffeur psychédélique ?
Ah, ça pourrait être les ciseaux d'un coiffeur psychédélique.
Et ça vous parle ?
Ben oui.
Parce que vous avez été coiffeur.
J'ai été garçon coiffeur après la troisième. On m'a envoyé en CAP. Je suis dyslexique, donc voilà. Je ne rentrais pas dans les cases. Et effectivement, je jouais à être cosmonaute dans le salon.
C'était justement un endroit, le salon de coiffure, propice pour vous entraîner.
Je mettais les casques pour sécher les bigoudis et je prenais les sèche-cheveux pour faire les tuyères. J'étais enfermé dans un environnement, un peu comme les cosmonautes, où je devais gérer du cheveu. Et je m'ennuyais. Enfin, c'était une période assez triste de ma vie. Et donc là, dans l'imagination, enfin, c'était moi, j'avais envie d'être cosmonaute et m'arracher de tout ça, quoi.
Et c'est efficace pour faire diversion à l'ennui de ce.
À l'ennui, oui, l'ennui, c'est un très bon moteur pour l'imagination. Oui, c'est.
Non, mais je voulais dire, après, se mettre dans ces positions-là pour faire semblant d'être cosmonaute, ça aide à sortir de...
Ah oui, parce qu'il y a les sièges, on se mettait en position avec les sèche-cheveux, le bruit. Enfin, moi, c'était bon, j'y étais, quoi. J'étais Yuri.
Et après, vous lisez Objectif Lune, et là, vous trouvez une expérience spatiale capillaire, justement.
Ah, j'avais déjà lu avant.
Ouais.
Tintin, c'est fondateur, quand même.
Et donc, à commencer par se faire pousser les cheveux à l'envi, grâce à l'espace. En tout cas, ça projette ça.
Oui, oui, bah, y a les Dupont hein, qui ont les cheveux qui poussent, là. Effectivement, quand j'étais coiffeur, j'avais aussi des coupes de cheveux aussi improbables. Et ouais, j'ai beaucoup expérimenté.
Mais c'est quoi une coupe de cheveux spatiale, alors ? Vous êtes la personne parfaite pour répondre à cette question qu'on se pose tous les jours.
Je m'étais fait une coupe de cheveux spatiale, justement. Et j'étais tout argenté. J'avais les cheveux complètement argentés. Complètement... Comme si j'étais passé sous une fusée. Ouais.
Ça s'appellerait comment, un salon de coiffure dans l'espace ?
Bah, Space Air.
Ce serait encore pire que sur Terre, alors.
Ah bah oui, le jeu de mots doit perdurer.
Ah, c'est-à-dire oh bah que oui. Ah oui, ça sortir de l'atmosphère, ça nous...
Ah bah oui, atmosphère, ça... alors sur la Lune, le premier salon de coiffure spatiale sur la Lune, il s'appellerait Atmosphère, ouais.
Artistiquement, ouais. Est-ce que le spatial, alors, ouvre comme ça un horizon capillaire pour le champ de la performance ?
C'est possible. Après, moi, je fais pas de performance.
Oui.
Mais je sais qu'il y a des artistes performeurs qui parce que je connais une artiste au Brésil qui coupe les cheveux, qui fait des performances en coupant les cheveux.
Ah oui.
Oui, ça pourrait. Il peut y avoir une perspective.
Bah oui, parce que qui plus est. Et puis dans... les cheveux coupés doivent s'en aller.
Ouais, puis en apesanteur. Enfin, tu vois.
Oui.
Essayer de faire une boule, faire. Non, ça serait pas mal.
Ça change les perspectives. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que vous collaborez avec l'Observatoire de l'espace depuis déjà longtemps. La première fois, c'était donc précisément pour ce satellite A1.
Oui, en 2015, pour la Nuit Blanche.
Et alors donc, ça consistait à faire une installation vidéo qui se disposait comment ?
Donc c'est deux écrans avec une animation projetée. L'animation dure 8 minutes ou 9 minutes, qui présente la fusée... Diamant, les différents éléments moteurs, et puis ensuite le décollage d'Amaguir, là, du pas de tir, et puis ensuite l'injection en orbite du satellite. Et sur fond de papier peint, Hop Art, les papiers peints un peu hallucinés des années 60, là.
Oui. Et donc vous aviez réussi à coller comme ça votre amour du papier peint, votre intérêt pour l'espace.
En fait, le papier peint, pour moi, c'est un peu c'est l'espace en fait. C'est je vois l'espace pas vide mais plein de motifs. Et donc c'est et l'espace du papier peint, c'est un espace dans lequel on peut se projeter, on peut imaginer des choses, rentrer dans les motifs. Donc j'ai imaginé un espace de papier peint dans lequel viennent évoluer les fusées. Enfin, une fusée.
Ah, c'est-à-dire que pour vous, ah oui, le papier peint, c'est presque l'emblème du rêve spatial.
C'est l'espace, c'est l'environnement spatial, voilà. C'est l'espace.
Mais vraiment, le papier peint orange, marron...
À fleurs, oui, tous les trucs dans lequel
très 70's,
j'ai grandi, oui, ouais. Oui.
Et puis alors, en 2019, vous vous êtes saisi des archives photos sur l'ingénieur militaire Jean-Jacques Barret. Pourquoi est-ce que ça vous a tant emballé ?
Là, en fait, c'est sur une invitation de Gérard Azoulay. Oui. Là, on sortait du Covid et j'avais de l'aquarelle. J'avais toujours rêvé de peindre et je me suis mis à faire des aquarelles et puis j'ai adoré faire d'utiliser ce média-là avec de l'eau. Enfin, il y a une temporalité qui est vraiment intéressante et j'avais fait une série sur mai 40. Et Gérard avait vu la série et m'a proposé de travailler sur cet ingénieur que je ne connaissais pas du tout et qui a travaillé dans la France de Vichy à développer les prémices du développement spatial.
Et donc ça consistait à reprendre ces archives photos et à les refaire en aquarelle.
Oui, ou c'est
à les
ça. Oui, j'avais fait ça pour la série de mai 40. C'est-à-dire que je me saisis d'archives et je les refais, je les rejoue comme un musicien va rejouer un morceau. Je les rejoue, mais avec mes moyens.
Mais est-ce que le témoignage oral d'un ingénieur aurait pu vous inspirer autant qu'une photo ?
Non, j'ai vraiment des images dans la tête. Hein. Je, moi, je me...
Donc vous partez des images pour aller vers des images.
Les images. Ouais. Moi, mon vocabulaire, c'est l'image.
Et puis il y a 2 ans, donc à l'automne 2020, et l'hiver qui a suivi, vous avez fait une série d'aquarelles, cette fois à partir du Centre Spatial Guyanais, 88 au total, que vous avez conçu. Un peu comme un récit pour le coup, mais vous l'avez fait ce récit rétrospectivement ou avant même de composer les aquarelles?
On a travaillé ensemble, toujours sur une invitation de, de Gérard Azoulay. On a fait une traversée des archives, donc sur plusieurs mois. On se retrouvait chaque semaine, donc on était tous enfermés, donc c'était par visio, et il m'a envoyé des salves d'archives.
Alors justement, c'était pas que des archives iconographiques.
Non, il y avait des rapports, il y avait des cartes, des plans.
Et comment un rapport devient une aquarelle ?
Ça donnait plutôt, le rapport, ça donnait le climat, plutôt. Les rapports, par exemple, de préfecture, moi, je voyais la France de Gaulle, je voyais le gendarme à Saint-Tropez, quoi. Avec cette espèce de foi dans le progrès. Parce que ce qui est frappant dans ces images, c'est que t'as des images techniques qui font vraiment rêver. Et puis à côté, il y a une 4L. Donc il y a toujours ce truc-là, t'es dans l'espace, mais il y a une 2 chevaux. Enfin, ça me renvoyait à chaque fois au film de Louis de Funès, à la fois De Gaulle et Louis de Funès, quoi.
Mais alors, une fois que vous avez De Gaulle, Louis de Funès, une 2 chevaux...
Et des fusées.
Comment est-ce que par une aquarelle, vous rendez tout ça spatial? Si vous vous mettez dans une situation très spéciale à ce moment-là, quand même.
En fait, c'est toujours pareil dans la vie. Il y a toujours les hasards. Au même moment, j'avais un autre projet au Brésil. Donc, j'étais parti au Brésil juste avant le Covid. Et j'avais pas conscience de la lumière là-bas, comment elle était. La lumière tropicale, enfin, très, très forte, très puissante. Et ça m'a permis de me projeter à Kourou. Et donc, je me suis dit, je vais mettre la même lumière. Et donc ça s'est traduit par j'ai gardé la lumière en blanc en réserve sur le papier, donc je laisse le papier et c'est le papier qui donne la lumière. Voilà.
Ça raconte quoi Kouroupolis, puisque on a dit que c'était un récit?
Et bien la création de la base spatiale de Kourou, c'est-à-dire cette ville nouvelle qui sort de la jungle.
Et qu'on a surnommé la ville spatiale, c'était un abus de langage ou une bonne description?
Je pense que c'est une bonne description. Enfin, je sais que dès le départ. Le programme spatial français de faire des pas de tir, et que les pas de tir, ils veulent les louer aux Américains, peut-être aux Russes. Donc il y a vraiment l'idée de fabriquer un outil à disposition dans une ville nouvelle.
Est-ce que ça vous a donné envie de vous-même vivre dans une ville spatiale ?
Y vivre, je ne sais pas, mais y aller, ouais, j'aimerais bien y aller, ouais, j'aimerais bien voir.
Et vous avez adapté votre propre domicile pour qu'il soit plus spatial ?
Oh, il a toujours... Enfin, non, plus maintenant, parce que je suis trop vieux. Mais oui, entre mes 15 ans et mes 25 ans, oui, je me suis fait des capsules, ouais.
Alors si, avant son lancement, il y a quelques jours, on vous avait confié le lanceur Artemis, vous auriez peint quoi dessus?
Alors, j'aurais pas peint, j'aurais mis des facettes, de boules à facettes.
Ah oui?
Ben oui, donc ça fait un lanceur disco. Et puis on aurait pu mettre des projecteurs et ça aurait illuminé. Lancer une boule à facettes géante dans l'espace.
Ah oui. Ça aurait donné des perspectives aussi de qu'est-ce qu'on projette dessus.
Forcément.
Et alors, comme on parle de plus en plus des hôtels spatiaux, il y a un collectif d'architectes qui a surenchéri en proposant la création de balcons pour permettre aux touristes de l'espace de contempler la Terre, en souvenir du designer Raymond Levy qui avait collaboré avec la NASA pour la station spatiale Skylab. Et alors, ce projet a fait dire à l'anthropologue urbaine Violette Deschamps dans le dernier numéro d'Avant-Poste, le paysage commence au bord de la fenêtre. Vous êtes d'accord avec cette phrase ?
Ah oui. Je suis frappé par... la façon dont on cherche les paysages dans le voyage, dans les programmes spatiaux. C'est-à-dire le vide, c'est difficile à représenter. Par contre, on cherche toujours une horizontalité, et puis comme un lever de lune ou un lever de les levées de terre, par exemple.
Ah, mais ça veut dire que c'est parce que vous avez voulu être cosmonaute que vous êtes devenu peintre, justement, parce que ça vous a révélé à votre amour de la contemplation du paysage.
Ah oui, je suis vraiment dans la contemplation, ouais. Mais c'est frappant que cette image-là de paysage, ça reste quelque chose de récurrent, quoi. On cherche toujours les paysages terrestres, en fait, dans l'espace.
Et alors cette phrase de Violette Deschamps, le paysage commence au bord de la fenêtre, elle a un petit côté à moitié déceptif quand même. Parce que ça voudrait dire qu'on a besoin d'une fenêtre pour pouvoir apprécier le paysage.
Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à ça.
Enfin, c'est une question de point de vue, quoi.
Je ne sais pas, je pense à Manet avec les... Non, je ne sais pas.
Manet ?
Oh, il y a une fameuse peinture où ils sont sur un balcon.
Ah.
Ouais, je sais pas.
C'est déjà un voyage spatial.
Oui. Non, j'ai pas réfléchi à ça, je sais pas.
Dans le numéro 2 de la revue Strats, l'historien de l'art Rémi Parcollet raconte le projet de l'association des inventeurs inventistes de monter la première exposition mondiale des véhicules et mécanismes interplanétaires où dans le Moscou des années 20, les maquettes des ingénieurs étaient présentées pratiquement à égalité des œuvres des artistes. Alors un siècle plus tard, est-ce que vous pensez qu'on devrait aller encore plus loin dans le rapprochement entre les schémas scientifiques et vos aquarelles ?
Le rapprochement art-science... C'est Marcel Duchamp, quand il voit les premières hélices d'avion, il se dit, mais en tant que sculpteur, je ne ferai jamais aussi beau qu'une hélice d'avion. Et je suis assez d'accord. Enfin, il y a vraiment des... Dans les éléments techniques, il y a des formes qui sont... Quand tu es plasticien, c'est... Après, mes aquarelles, c'est autre chose. Mais je sais pas. C'est pas à moi de décider ça, en fait. C'est à des commissaires d'exposition... Moi, je me saisis de forme. Après, je fais travailler mon imagination avec des moyens plastiques et puis je les mets en forme. Mais moi, je suis ravi d'exposer à côté d'un véhicule lunaire. Il n'y a pas de problème.
Mais les photos Jean-Jacques Barré, par exemple, une fois que vous en avez fait des aquarelles, vous ne voulez pas les mettre à côté de ces photos ou...
Ben, si, pourquoi pas. Si, si, bien sûr.
Voici un son. Vous pensez que c'est une œuvre sonore ou un signal d'évacuation ?
Ça peut être les deux, là.
Ah !
Pour moi, c'est les deux.
Ça, c'est embêtant, alors, si dans ce centre spatial, centre d'art, on a des œuvres qui ressemblent à des signaux d'évacuation, non ?
Je sais pas. Parce qu'apparemment, dans l'espace, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup d'aération, enfin de son, donc je sais pas, peut-être qu'il faut trouver un son particulier qui sorte, mais je sais pas. Enfin, moi, je vois plutôt ça comme un élément de sonore pour un début de musique industrielle.
D'accord, donc c'est quand même plutôt un début de
c'est
musique.
Plutôt, oui, pour moi, c'est plutôt de la musique.
Une fin de programme.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Alors, nous sommes presque à mi-parcours de ce studio cosmique. Est-ce que vous, dans la vie... vous arrivez à être sûr, à un moment donné, d'être à mi-chemin ?
Je sais pas. Ça dépend de... Quand c'est sur le travail artistique, oui, je vois à peu près.
Le moment où vous passez le cap de la moitié ?
Ouais. Mais
ça ressemble à quoi ?
Je sais pas.
C'est un sentiment ?
Tu vois quand tu fais des trucs...
Que c'est presque fini ?
Non, quand il y a des éléments qui arrivent, quand il y a des éléments qui arrivent. Tu dis, ah, là, ça fonctionne, là, c'est comme ça que j'avais envie, c'est comme ça que j'imaginais. Donc là, tu vois, mais c'est plus des bornes, quoi, ou des jalons, mais ça veut pas forcément dire, ah, il me reste ça encore à faire. En fait, je suis plutôt dans un rapport d'imagination perpétuelle, quoi. J'ai toujours une idée qui va arriver, qui va chasser l'autre. Il y a toujours, je me vois plus dans un mouvement. Continue quoi, comme un.
Mais c'est quand même en cours de parcours que vous vous apercevez.
Ça dépend des projets. Pour le CNES, oui, je voyais à peu près. J'avais qu'il y avait un début, un milieu, une fin. Donc là, j'étais capable de dire où j'étais à peu près. Mais en même temps, dans les arts plastiques, tu peux tellement remettre en cause tout au dernier moment que.
Ah, que c'est jamais gagné,
c'est
de
jamais,
savoir où on va, en fait.
En fait, c'est quand tu fais l'expo, ou là, comme le livre est publié, c'est là que tu dis, bon, voilà, ok, voilà, c'est fait. Mais dedans, tu sais jamais vraiment à quel moment t'es au milieu, ou tu vois quand t'es au début, et à la fin, mais au milieu, c'est compliqué.
Le milieu est très grand, alors.
Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'espace. Bah, c'est un peu comme les atomes avec les électrons, là. Il y a un espace délirant entre les deux. Donc
Ah oui, et donc pour vous, donc il y a un tout petit début grand comme un atome. Après, il y a un très gros milieu.
Ouais, c'est ça.
Et une fin qui fait plouf.
Non, pas forcément. Non, pas plouf. Plutôt ding, parce que la fin, c'est plutôt les vernissages. Donc c'est ding.
Mais c'est aussi c'est encore plus ponctuel que plouf.
Oui. Et puis c'est sympa.
Ah oui, je ne dis pas le contraire. Alors maintenant qu'on se connaît un peu mieux et qu'on connaît un peu mieux votre manière de vous acheminer, nous allons découvrir plus en détail votre projet pour le Centre d'art de l'Observatoire de l'Espace. Avant toute chose, comment est-ce que vous abordez les contraintes propres au fait d'exposer dans l'espace ?
Alors, transporter des choses, c'est compliqué. Parce que j'arrive pas à imaginer si j'ai pas un budget. C'est compliqué. Si c'est être trop dans le vide, j'arrive pas à me projeter. Enfin, j'ai besoin de contraintes. Et c'est dans les contraintes, en fait, que je suis libre. En fait.
Là, par contre, il y a une sacrée contrainte, quand
même. Alors voilà. Oui. Mais donc, moi, tout de suite, l'idée que j'ai eue, c'est de la vidéo. C'est envoyer des fichiers. C'est-à-dire qu'il y ait des vidéoprojecteurs à demeure, avec du son. Et puis envoyer des fichiers vidéo.
Mais comme vous avez l'habitude des installations, on peut se demander comment vous feriez pour réaménager les objets déjà présents dans l'ISS pour en faire des œuvres d'art.
Je sais pas trop, parce que j'arrive pas à déterminer qu'est-ce qu'il y a comme objet dans l'ISS. Ce que j'ai dans mémoire, c'est plutôt des choses très, très concrètes, très techniques, très utiles, quoi. Je vois pas un truc inutile dans la. J'ai pas l'impression qu'il y a des plantes dans un coin pour décorer.
Ah oui.
Ou une salle d'attente.
Et
une chaise.
Vous en ramèneriez des salles d'attente ?
Ah, c'est vrai que c'est intéressant, ouais, de mettre une espèce de non-lieu dans un
lieu.
Si c'était possible, ce serait pas mal.
C'est une première piste en tout cas.
Ouais, c'est un truc comme ça. Enfin, j'aime bien l'idée que ce soit inutile et que on ait accès à quelque chose d'incompréhensible et on comprend rien.
Donc faire tout ce voyage pour attendre.
Ouais, ça par exemple,
une fois
ça
sur
c'est
place.
Un bon projet. Ouais.
Donc tiens une première œuvre. Alors au cours de votre travail sur
salle d'attente.
Au début de l'année 2021, vous avez découvert le film CSG, donc comme Centre Spatial Guyanais, en 5, réalisé par le CNES en 1969, avec montage saccadé, construction symétrique qui vous ont rappelé Star Trek. Mais il y a aussi dans ce film une voix.
Le centre spatial guyanais s'étend sur une bande côtière de 60 km de long et 20 km de large. À côté d'une nouvelle ville, Kourou, il comprend un centre technique, une zone portuaire et industrielle, une zone affectée aux ensembles de lancement, des installations de trajectographie et de télémesure.
Jean-Claude Michel,
vous l'adorez.
Le fameux.
Alors le fameux, c'est-à-dire on dirait pas comme ça, mais c'est aussi la voix de Clint Eastwood.
Oui, et de James Connery. Bond.
Ouais,
de James Connery. Bond et ouais, de Sean Connery.
Pourquoi c'est une voix formidable ?
Elle est pas formidable, mais elle montre bien la voix virile française des années 60. Et c'est ça qui m'intéressait de.
C'est le côté deux chevaux en fait.
Ouais, c'est ça. C'est le côté ingénieur en deux chevaux. Oui, alors, en train de fumer des clubs, oui, alors. Avec cette voix qui incarne vraiment toute l'histoire française avec un côté patriarche, autoritaire. Le mec, tu le vois tout de suite commandant ou général.
Il vous arrive d'utiliser cette voix dans la vie ?
Pour rigoler.
Ouais.
Mais je sais pas si j'arrive bien à imiter Jean-Claude Michel. Mais quand j'ai découvert que c'était Jean-Claude Michel, j'étais hyper content de. C'est une voix que j'ai entendue souvent, enfin, et que j'avais associée au cinéma, mais pas à de la propagande du programme spatial militaire français, quoi. Et pour moi, tout de suite, c'était une sorte de symbole, quoi.
Ouais. Voix. Mais alors, si vous deviez donc faire une exposition dans le centre d'art de l'ISS, quelle voix vous pourriez choisir pour les audioguides ?
Ben celle-là.
Justement. Ah, justement.
Oui.
Donc vous l'imaginez faire dire quoi à Jean-Claude Michel ?
Moi, je sais pas.
Ici, mais... vous avez une œuvre.
C'est ça, un truc comme ça. C'est daté. Genre j'aime. C'est un peu. C'est un phrasé aussi. C'est une façon de parler.
Ouais.
Et donc j'imagine bien synthétiser sa voix et qu'il y ait une voix de robot, quoi. Mais avec comme les.
Mais avec le timbre de Jean-Claude Michel.
Comme les GPS, quoi. Tu choisis ta voix. Ben là, ce serait Jean-Claude Michel.
D'accord. Quels seraient les artistes que vous aimeriez inviter dans cet espace d'exposition ?
Moi, j'ai réfléchi à... Il y a deux artistes dont j'aime beaucoup les travaux vidéo. C'est la première, c'est une artiste suisse qui s'appelle Pipi Lotiriste, qui fait des projections sur des objets et des environnements. Et l'autre artiste, ce serait Christian Marclay, mais là, c'est pour The Clock, pour le temps. Enfin, il y avait vraiment l'idée de... Et j'ai pensé qu'un garçon et une fille...
Parce que l'œuvre de Marclay, forcément, elle devrait se redimensionner une fois dans l'espace.
Oui, ben moi, j'imagine une projection vidéo sur plusieurs écrans. Alors, essayer de trouver des écrans, parce que la spatiale et la station est ronde, donc des images rondes, et puis... un environnement complet, et je pense que The Clock de Christian Marclay là-dedans, ce serait pas mal.
Quant à Pipi Lotiriste, pour le coup, ces projections seraient des projections spécifiques sur des objets spécifiques,
sur les objets de,
c'est-à-dire ce serait la même technique. Alors, mais
ouais, c'est ça, ça pourrait être, je sais pas, sur moi j'avais vu une installation d'elle au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'était une cuisine, une espèce d'immense écran qui reprend le mobilier de placard d'une cuisine, avec un évier, la machine à laver et tout ça, et ça servait d'écran. Et le motif, c'était un gros plan sur le corps d'une fille avec les cheveux rouges. J'avais trouvé ça incroyable comme installation. Donc je sais pas, c'est un truc à faire là-dessus, quoi.
Mais alors, vous qui êtes capable d'adapter votre heure de réveil à la couleur du ciel, est-ce que vous chercheriez un moyen d'investir artistiquement le fait que dans ce centre l'art, puisqu'il est dans l'ISS, on a 16 levées et 16 couchers de soleil toutes les 24 heures?
Oui. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, ça, d'avoir 16 motifs différents. Pour de 16, quelque chose comme ça.
Donc vous en feriez une œuvre de ces variations de lumière
travailler avec
naturelle.
le temps, ouais.
Comment est-ce qu'on pourrait faire alors pour relier, je sais pas, par exemple The Clock de Christian Marclay à ces jeux de changements lumineux dans le centre d'art?
Ça, je sais pas, faut réfléchir plus longtemps.
D'accord.
Je travaille sur le temps long, en fait. Je travaille pas sur... Ah oui. L'actualité, c'est un truc bizarre pour moi.
Pas que pour vous.
Non, mais vraiment, je suis dans le temps long.
Mais le temps long, c'est combien de temps?
C'est le temps de Fernand Braudel. C'est-à-dire, c'est le temps des volcans, par exemple. C'est intéressant.
Mais c'est beaucoup, quand même.
C'est long, ouais. C'est pas la vie, c'est pas le temps des hommes.
C'est-à-dire que pour répondre à la question que je viens de vous poser, il faudrait à peu près 3 millions d'années.
Un truc comme ça.
D'accord.
Ouais, un truc comme ça.
Bon, on essaiera de vous la reposer le moment. Le vernissage, il se passera comment?
Le vernissage, hein? Ah oui, ça, on serait forcément, on aurait du vin pétillant dans des
canettes,
dans des pommes potes là.
Ah oui. Donc ça fera plus digne.
Ça fera pas digne. Et il y aura des bulles de vin pétillant.
Juste les bulles.
Mais j'aime bien la mise en abîme, quoi. Oui. Les bulles de champagne avec des bulles, en bulles.
Et vous pensez préparer des dispositions particulières pour ouvrir l'exposition, ou des protocoles d'arrivée, d'accueil du public?
Ah, la médiation. Ah oui, j'ai pas. Je sais pas. Il faut bosser avec des médiateurs.
Des médiateurs qui ont tous la voix Jean-Claude Michel?
Non, mais j'ai du mal à me projeter, en fait. C'est tellement improbable que j'ai du mal, en fait.
C'est pas facile. Hein.
Ouais.
Alors, pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes, voici une question d'un artiste mystère qui vous propose une œuvre que nous avons anonymisée pour ne pas interférer sur votre décision de valider ou pas l'œuvre qu'elle propose.
Oui, bonjour Erwan, je suis peintre et je voudrais vous proposer une œuvre pour l'ISS qui consisterait à projeter des jets de peinture en direction d'un tissu blanc. Je voudrais en fait que deux caméras capturent au ralenti les mouvements des gouttes de couleur en apesanteur jusqu'au moment de leur éclatement sur la toile. Et pour l'exposition, il s'agirait de reprojeter la vidéo sur la toile déjà couverte des couleurs. Est-ce que vous pensez pouvoir accueillir ma proposition ?
La vidéo des... Parce que j'avais ce projet-là de faire du dripping dans l'espace.
Donc là, c'est un projet concurrent, alors.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la projection. Le résultat, je m'en fiche.
Ah.
Je m'en fiche du résultat. C'est juste le mouvement qui m'intéressait. Donc,
donc c'est au point que vous filmeriez pas.
Si, la vidéo de dripping, si, oui. Mais le résultat sur la peinture, je suis pas sûr que ça apporte grand chose.
Ah oui.
Ouais.
Parce que dans l'espace, c'est vrai qu'une partie de paintball devient une performance artistique.
Ah bah oui, oui.
Ouais.
Ouais.
De la peinture en mouvement.
Ah ouais, ouais. C'est pas mal à faire.
Et un mobile de Calder, vous feriez comment pour l'exposer ?
Moi non, en Calder, on le laisse sur Terre.
Ah oui, c'est trop terrestre. Quel conseil vous donneriez à des jeunes artistes pour les aider à vous soumettre des projets pour ce centre d'art dans l'ISS ?
Quel conseil ? De travailler toujours, toujours. Jamais abandonné.
De travailler dans des dispositions particulières pour
Non,
plus raccord.
D'entretenir le feu sacré.
D'accord. Comme tout le monde, quoi.
C'est ça. Non, j'ai pas de, y a pas de règle en fait.
Et vous pensez qu'il faudrait des workshops spatiaux dans les écoles d'art ?
Alors non. Enfin là, c'est trop. Je n'arrive pas à déplacer de mon imagination de la réalité et du coût financier. Et ça, je trouve ça tellement horrible que je trouve ça effroyable, donc j'arrive pas. Donc non.
Donc un workshop.
Il y aura pas de workshop avec moi en tout cas.
Ça commencerait par écrire des dossiers de demande de subvention.
Ouais, c'est ça. Ce sera sur Terre. Il faudra bien réfléchir et tout ça, mais j'arrive pas. Enfin, c'est trop. Je sais pas. C'est trop compliqué.
Parce que vous pourriez partir de vos aquarelles et essayer de les faire varier à partir de là, par exemple.
Non.
Vous pourriez leur confier la réflexion.
Mais je sais que l'exercice, ouais, c'est d'imaginer quelque chose et tout ça, mais je suis adulte, je suis plus enfant. Donc j'arrive plus en fait. Ça, c'est, vous m'auriez posé la question quand j'avais 12 ans, là j'aurais eu plein de réponses.
Ah donc soit quand vous aviez 12 ans ou dans 3 milliards d'années.
Ouais c'est ça.
D'accord.
Mais alors, là, j'ai 50 balais, c'est foutu.
Il se trouve que ces studios cosmiques sont quand même l'occasion de déjà constituer la collection des œuvres qu'on pourra mettre dans ce centre d'art. On a déjà le télescope intérieur d'Eduardo Katz et puis on a la dernière invitée en date du studio cosmique, Véronique Bellan, qui propose cette œuvre-là.
Moi, ce que j'aimerais bien, ce serait de, plutôt que d'envoyer quelque chose, prendre quelque chose. Comme cette question de flux en direct ça est très présente dans mon travail et sert à alimenter la plupart de mes machines, j'aimerais bien en fait pouvoir partir avec quelque chose qui est mesuré là-haut. Par exemple, avoir accès à quelque chose, une information comme ça qu'eux reçoivent en continu pour alimenter donc cette œuvre terrestre que je suis en train de réaliser de manière à ce que mon scientifique, c'est le projet s'appelle le scientifique de l'espace, c'était le titre généré par l'IA, de manière à ce que mon scientifique de l'espace puisse être vraiment alimenté à partir de l'espace.
Et alors vous, l'œuvre qui restera dans le centre d'art, ce sera quoi ?
J'ai fait un cycle de vidéos qui s'appelle Destroy Wallpaper. Et je n'ai jamais mis de fin. Enfin, donc c'est des motifs de papier peint qui évoluent sur des sons. Et je me suis toujours dit que fallait s'adresser aux cosmonautes. Et donc je pense qu'en cosmonautes, ils ont besoin de trucs. Alors après, je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais des choses qui rappellent la Terre. Donc ce serait des trucs avec des sons, des bruits de square. Des bruits de mer, des bruits de campagne, d'eau, de ville, et avec des motifs de papier peint qui évoluent là-dessus.
Et alors, vous en mettriez partout ? Parce que l'avantage de ce centre d'art, c'est que même s'il n'est pas grand, même le plancher et le plafond peuvent devenir des murs.
Oui, parce que c'est des installations que j'ai faites et qui sont sur tous les écrans. Donc c'est vraiment l'idée d'être projeté dans un environnement de motifs qui évoluent. Sur du bruit, sur du son.
Et alors, les sons et les motifs seraient customisés pour l'occasion ? Seraient spécifiques ?
Pas forcément.
Ils seraient encore plus terrestres ?
Oh ouais, j'essaierais d'être le plus terrestre possible, enfin, avec du son, pour avoir vraiment une matière sonore très terrestre, enfin, jusqu'à ce qu'on sente le sable, qu'on sente la terre. Voilà.
Et est-ce que vous feriez des motifs et des sons différents selon que c'est, par exemple, le moment de l'exposition dédié aux astronautes et puis le moment plus grand public ?
Non, il y aurait des choses différentes. Il y aurait des trucs pour les cosmonautes et des trucs pour le public.
Alors, ce serait quoi pour les cosmonautes ?
Ben ça.
Ce serait plus terrestre pour
les... Voilà, pour les cosmonautes, c'est la Terre. Et pour le public, ce serait le temps, l'espace, plutôt des choses philosophiques.
Ah, d'accord. Des conversations de cosmonautes, par exemple. Non, ça, c'est pas forcément philosophique.
Si, ça peut être ça.
Vous retransmettez pour...
Je sais pas, mais ça pourrait être du quotidien de cosmonaute.
Parce que qu'est-ce que vous pensez de cette idée de Véronique Bellan d'aller chercher des choses qu'on ne peut capter que depuis l'ISS pour nourrir des œuvres d'art?
Ah oui, c'est vachement bien. Hein. C'est super bien le travail de Véronique.
Et ça, vous pourriez en faire quelque chose, vous?
Ah ben, je pense que si j'étais amené à aller dans la station, je ramène à des choses, oui. Donc,
des nouveaux motifs de papier peint, par exemple.
Ouais, je sais pas. Oui, je ramènerai plein de choses.
Mais encore ?
Des boulons.
Des boulons.
Je piquerai un boulon.
Ça peut être très très dangereux de voler un boulon dans le
ciel. Oui, ce serait très compliqué. Il y aurait la sécurité et tout ça, ce serait très compliqué.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.